Et à l'heure où la perception des musiques roots américaines pourrait être modifiée aux yeux de beaucoup, et ce par l'intermédiaire de Bob Dylan qui, il y a une bonne cinquantaine d'années, libérait déjà les esprits, j'ai décidé de vous proposer en cette journée une émission qui puise au plus profond du blues, mais aussi du jazz et du swing. En espérant malgré tout que les sons raclés sur les rives du fleuve Mississippi ne deviennent tout à coup un centre d'intérêt pour Bobo en goguette, désinhibé par l'attribution du prix Nobel de littérature à l'interprète de The Times They Are Changing. Oui, les temps changent, merci Bob. Mais pour nous tous, le fait de promouvoir au mieux des artistes oubliés des gros médias, mais pourtant dotés de parcours et de talents impressionnants, reste de rigueur. Pour preuve, commençons avec la belle et rebelle anglaise Lucy Dixon qui joue de son look d'avant-guerre aussi bien que de sa voix et qui nous propose un nouvel album, Lulu's Back in Town, enregistré avec des musiciens issus du jazz manouche. Retrouvons-les tous sans plus tarder avec une reprise d'un morceau composé par George Gershwin en 1924 et interprété dans le passé par des artistes tels que Fred Astaire, Tony Bennett, Tony Dorsey ou encore Ella Fitzgerald. Fascinating Rhythm, oui, mais avec Lucy Dixon, continuons d'être fascinés par ce rythme qui, semaine après semaine, continue d'enchanter nos voyages sur la route 66.
Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter-pats through my brain. So darn persistent, the days and distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning, hangs around me all day. Someday I sneak into it, I have to speak into it. I hope it listens when I say, fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I get up with the sun, I start a hopping, never stopping, to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy, won't you take the day off, decide to run off somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me. Fascinating rhythm, I'm on a quiver. What a mess you're making, my neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I get up with the sun, I start a hopping, never stopping, to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy, won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on. Won't you stop picking on.
Extrait de Lulu's Back in Town qui paraît ce 21 octobre 2016, c'était Lulu Dixon avec Fascinating Rhythm. Le rythme, il le connaît parfaitement bien sûr, à la fois saxophoniste de jazz, spécialiste des musiques improvisées, compositeur, chef d'orchestre et ethnomusicologue, Raphaël Imbert mène une carrière absolument passionnante qui l'a conduit dans le sud profond des États-Unis où il s'est amicalement frotté à d'illustres bluesmen locaux. Il en résulte l'album Music is my home, Act 1, l'un des chocs musicaux de l'année 2016, sur lequel son jazz côtoie avec finesse l'ancestrale musique rurale américaine. J'ai rencontré Raphaël Imbert durant la dernière édition du Nancy Jazz Pulsation, et avec lui je suis revenu sur son parcours ainsi que sur cet audacieux projet. Voici immédiatement une séquence d'une cinquantaine de minutes qui lui est consacrée et qui débute avec cet instrumental MLK Blues.
Raphaël, au regard de ta carrière déjà riche, on a l'impression que musique rime avec pédagogie. Non seulement tu es professeur, mais en plus à l'écoute de tes disques, on ressent une insatiable envie de faire découvrir de nouvelles choses à tes auditeurs. Comment expliques-tu cette démarche ?
Oh bah ça me paraît très naturel en fait. C'est vraiment le. Je trouve que la musique est un élément de partage et un élément de compréhension, d'échange. Donc il y a vraiment. Pour moi, c'est un. Il y a toujours le vœu pieux et la palissade qui consiste à dire que c'est le langage universel. Mais au-delà de ça, c'est un moyen de dialogue entre différentes personnes de différents contextes. C'est un peu la preuve avec ce projet-là et ce disque-là. De pouvoir véritablement partager et effectivement d'en faire un outil pédagogique. C'est un outil, alors particulièrement le blues, le jazz, l'improvisation, c'est l'outil, on démontre la capacité des gens à pouvoir s'entendre et à faire des choses ensemble. Voilà.
Au départ, tu es un saxophoniste autodidacte qui par la suite est devenu premier prix de conservatoire. Comment passe-t-on d'un statut à l'autre ? Ça doit être un travail énorme.
Ouais, non, ça c'est. Alors là, pour le coup, je dois le dire, j'en suis pas particulièrement fier. Ça s'est passé assez vite parce que c'est Marseille. Voilà, j'ai passé mon premier prix de jazz. J'étais 3 ans après être rentré où j'étais complètement autodidacte, mais passionné de musique, mais vraiment autodidacte. Je savais pas ce que c'était qu'un accord. Je lisais pas la musique, je l'écrivais pas. Ça s'est pas beaucoup arrangé depuis d'ailleurs. Et en fait, donc j'ai passé mon premier prix avec un projet, c'était super, et j'ai l'impression qu'ils ont oublié de me demander si je savais lire la musique, si j'avais passé mes UV. Voilà, j'ai eu un peu de chance, je suis passé entre les gouttes, en quelque sorte. Le gros du travail, en fait, pour moi, le gros travail qui a représenté vraiment un gros effort, c'est la rédaction de mon livre Jazz Suprême, où j'ai fait tout un travail sur le spirituel dans le jazz, qui est un travail à la fois anthropologique, ethnomusicologique, et puis personnel, pour un peu tirer les liens de tout ce qui nourrit les musiciens de jazz, particulièrement afro-américains, et notamment sur l'aspect religieux, spirituel, ce genre de choses, qui sont des sujets qui n'étaient pas étudiés. Voilà. Alors ça a été un gros travail, ça. Et c'est un travail que j'ai fait personnellement. Je n'avais pas tiré de diplôme universitaire, même si je travaille beaucoup avec les universités ou certains universitaires. Mais voilà, ça a été un travail personnel, et ça a été un gros travail.
Où puisses-tu ta foi pour toutes ces musiques ?
Oh, alors ça, c'est une bonne question. En ce moment, j'ai du mal à le savoir parce que c'est assez chamboulé dans ma vie. Mais où est-ce que je tire ma foi dans ces musiques ? Mais en fait, il y a une phrase de Ted Jones, qui est un grand poète afro-américain surréaliste. Il disait « Le jazz is my religion », justement. Voilà, si j'ai foi en cette musique, de toute façon. Je veux dire, donc, y a cette musique donne à croire, donne à penser, donne à espérer. Donc, il y a vraiment une énergie, une ferveur qui est parfaitement transmissible et parfaitement audible. Voilà. Même si c'est une musique un peu d'initié, hein, y a des gens qui sont hermétiques à cette musique. Alors le but, c'est pas de la rendre audible par tous, c'est de la rendre peut-être un peu plus compréhensible, un peu plus, pas plus facile d'écoute, mais plus proche que de gens qui seraient au départ hermétiques à cette musique-là.
Dès 2002, tu as commencé un petit peu à mélanger les savoirs au sein d'un collectif, hein, qui s'appelait L'Enclencheur. Et c'était en compagnie d'autres musiciens, mais également de journalistes, je crois, d'amateurs tout simplement de cet art, et également de sociologues. Quel était le but précis de L'Enclencheur ?
Le but de L'Enclencheur, c'était vraiment justement de sortir un peu des ornières, des frontières, qu'on puisse dialoguer ensemble, travailler ensemble. Et la preuve que c'était une utopie, c'est que ça n'a pas marché du tout. C'est marrant parce qu'on me parle souvent de ça, parce que c'est dans mes CV, dans les sites et tout ça. Et bon, je conteste pas, mais c'était justement, pour moi, c'était une expérience très révélatrice, très précise, c'est que ça ne marche pas. De toute façon, les volontés de collectifs, bon, y a des collectifs de musiciens, des collectifs de chercheurs, hein, mais quand on veut mettre tout ça ensemble. Alors, depuis, il y a des expériences qui ont été faites qui ont été plus concluantes. J'en ai participé à certaines. On a fait des choses autour de l'IRCAM avec le logiciel Omax. On était vraiment en symbiose avec chercheurs, artistes, amateurs et tout ça. Mais c'était vraiment sur des projets précis. Le but de L'Enclencheur, c'était dans le contexte marseillais, c'était de créer une sorte de petit club de gens qui avaient cette passion de la musique et qui voulaient au-delà de. Enfin, moi, je trouve le jazz, surtout en France, c'est victime de son histoire qui est magnifique. C'est-à-dire, c'est l'histoire des hot clubs, mais c'est aussi l'histoire des spécialistes, des gens qui s'érigent un petit peu en doctes, enfin comment dire, en en dogmatique de cette musique, qui disent qu'est-ce que c'est que le jazz, ça c'est du jazz, ça s'en est pas, enfin ce genre de choses, et qui font que dès que quelqu'un s'intéresse à cette musique mais ne connaît pas les codes de ces gens-là, on les regarde de haut, voilà, et ça contribue énormément à l'aspect élitiste de cette musique, qui est quand même au départ une musique populaire, et qui doit le rester, même si elle a un aspect savant, un aspect de recherche, qu'il faut pas. Pour moi, c'est vraiment la musique du cul entre deux chaises, hein, c'est la musique savante et musique populaire en même temps. Et ça l'a été dès le départ d'ailleurs. Hein. Et donc, il y a cette ambivalence en France, voilà, de gens qui sont spécialistes de la chose, mais devenant spécialistes. À mon avis, c'est un avis personnel, et je ne me fais pas que des amis, mais ça, comme ça fait à peu près 15 ans que je le dis, maintenant je pense qu'il n'y a plus de secret, mais ils assèchent un petit peu le sujet, à force de vouloir le rendre trop proche de leur image, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils considèrent être le jazz ou pas le jazz.
En même temps, tu ne ressens pas une forme de démocratisation de cette musique à nouveau aujourd'hui ?
Oui, mais bien sûr, mais ça vient pas des spécialistes du jazz, tant mieux. Ça vient, voilà, des festivals qui font des efforts, vous savez, on est toujours un peu, on n'est pas placé de la même manière. Si vous êtes organisateur de festival et que vous avez quand même besoin que votre salle soit remplie, alors après ça donne des choses où effectivement, nous musiciens de jazz, on se pose parfois des questions sur des programmations qui, dans un festival de jazz, on se dit non là c'est tiré par les cheveux. Tout peut être du jazz, hein. Enfin, je veux dire, pour moi le jazz c'est un état d'esprit, c'est pas un style de musique. Après il y a des choses, sous prétexte que c'est un état d'esprit, que c'est un truc de métissage, on va mélanger tout et n'importe quoi et le mettre dans un festival de jazz. Bon, voilà, il y a des festivals qui programment Seal, j'ai rien contre ce chanteur, ou certaines choses. J'ai dit, bon, il y a tellement de choses originales qui pourraient vraiment mettre en scène des styles de musique très différents et qui sont dans cet esprit de rencontre, d'improvisation, de créativité, et qui ne sont jamais programmés. Voilà. Et là, ça ferait un travail magnifique. Mais quand même, beaucoup de festivals qui ont fait cet effort de démocratisation, de diversité, et qui font d'ailleurs que le public est là. C'est-à-dire que là, les festivals de jazz, moyens, petits, gros, font le plein, en gros. Moi qui fais beaucoup de choses avec la musique classique, avec des musiciens classiques, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre le public de jazz qui s'est vraiment rajeuni et le public de classique qui lui reste. C'est vraiment. Vous regardez la salle souvent, c'est gris. Là, les cheveux sont gris, quoi. Hein, voilà, et c'est pas grave. Mais sauf que si on continue comme ça en classique, dans 10 ans, il y aura des vrais, vrais, vrais gros problèmes. Voilà, ils ont fait plein d'autres progrès, notamment sur la diversité des genres. Hein. Sur scène, vous avez des femmes, des hommes et tout, ce qui est vraiment loin d'être le cas en jazz. Il y a encore des gros efforts à faire là-dessus. Par contre, dans le public, là, il y a un truc qui a été oublié. Voilà.
J'aimerais évoquer une autre recherche musicale, voire ethno-musicale, avec le projet Omax Elomax, qui a été monté afin d'étudier les racines musicales américaines et la grande tradition orale qui en découle. Hein. Est-ce que tu peux revenir là aussi sur cette expérience ?
Bah, c'est une expérience, justement, c'est né de ce collectif Improtech qui était autour de l'IRCAM et de pas mal d'ingénieurs et d'anthropologues qui réfléchissaient sur le sens de l'improvisation et le rapport de l'improvisation et de l'oralité avec les nouvelles technologies. Notamment Omax, qui est un logiciel d'improvisation, qui est une sorte de bébé qui apprend à jouer la musique en vous écoutant, en apprenant de ce que vous écoutez, qui transforme ce que vous jouez, et qui d'ailleurs fait très rapidement des choses à partir de ce que vous faites, des choses que vous serez incapable de jouer techniquement. C'est assez passionnant. J'ai des amis, des musiciens, je connais des musiciens qui ont été un peu traumatisés par ça, qui n'ont pas aimé le principe. Moi, je trouve ça, ce principe-là, vraiment intéressant, d'autant qu'il met en branle en action des principes de construction pour improviser, qui sont très liés à moi, pour moi, ce qui est l'essence, c'est pas le mot, mais la nature du blues, par exemple. Le blues, c'est pas forcément, encore une fois, il y a le style, vous écoutez quelque chose, ça fait bluesy, mais c'est pas pareil. Et le blues, c'est cette façon de jouer quelque chose, de le répéter pour se faire comprendre et de trouver la réponse à ce qu'on joue. Et vous pouvez faire ça en free jazz, vous pouvez faire ça en musique contemporaine, vous pouvez faire ça en rock, en ce que vous voulez. Si cet outil est respecté, c'est du blues. Et Omax fait ça, en fait. Il repère dans ce que vous jouez des choses qui reviennent, et puisque ça revient, c'est quelque chose qui revient, qui est répété, c'est quelque chose qui se construit. Donc lui-même va trouver d'autres moyens de construction à partir de ça. Et en plus, donc, comme moi je leur ai dit à l'IRCAM, finalement, vous avez inventé un logiciel de blues. Ils étaient loin d'imaginer ça. J'ai dit, bah, écoutez, on va voir, on va prendre des vieux documents de blues, notamment des trucs enregistrés par Lomax, donc le grand ethnomusicologue, qui a sillonné les États-Unis et le monde entier à la recherche de la musique populaire, au sens premier du terme. C'est la musique qui émane du peuple. Hein. Et le blues est vraiment une musique qui émane du peuple. Hein. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et on les a omaxisés, parce que c'est devenu un verbe, un adjectif, tout ça. Et ça donnait un outil à la fois très contemporain, très moderne, et vraiment ancré dans les racines de cette musique.
Et cette rencontre avec John et Alan Lomax, ça remonte à quand?
Oh, en fait, ça se fait assez naturellement. On est tous un peu des enfants de Lomax sans le savoir, parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on aime, des enregistrements de grands bluesman, de certains vieux jazzman ont été faits par Lomax. C'est une belle histoire, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, enfin les deux hein, d'ailleurs, mais surtout Alan, c'est vrai qu'il est le plus connu. John, il a un peu lancé l'histoire. Hein. C'est marrant, c'est des gens qui, dans leur petit cercle d'intellectuels américains, étaient plus, au départ, plus intéressés par les recherches de Schoenberg, le dodécaphonisme et tout ça, puis finalement ils ont dit non, mais attendez, ça c'est pour notre petit milieu, mais si on veut vraiment travailler, parce qu'ils étaient tous de gauche, avec une conscience communiste ou socialiste assez forte, et donc il faut travailler pour le peuple. Donc on va travailler à partir de ce que le peuple nous donne, et en faire quelque chose d'autre et le transmettre. Et on oublie souvent que Lomax a été longtemps à l'époque où, parce qu'on a toujours l'image des États-Unis en très anticommunisme, il y a quand même toute une période, notamment la période de Roosevelt, des années 40, avant que McCarthy arrive, puis il y avait de la résistance, où il y avait une forte conscience de gauche aux États-Unis et des émissions de télé que The Weavers, qui était le groupe de Pete Seeger et tout ça, avec sous la houlette de Lomax et ces gens-là, qui faisaient des émissions de télé quotidiennes ou hebdomadaires, où vraiment ils jouaient du blues, ils invitaient des artistes noirs, ils les faisaient jouer avec des musiciens de country, et vraiment cette volonté de mélange et de partage, quoi, vraiment, qui était très forte.
J'ai failli dire que de la famille Lomax à Tim Dufy, il n'y a qu'un pas, un pas que tu as franchi. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu as découvert la Music Maker Relief Foundation?
Alors, Music Maker, je les ai, en fait, beaucoup de gens m'ont dit, tu vas commencer par Philippe Langlois, Dixie Frog, Petra Garman, mon éditrice, Métis Music et tout. Faut que tu rencontres Tim Dufy, le travail qu'il fait, puisque tu t'intéresses. Donc, je partais en plus dans le cadre d'un ProTech, j'avais des missions dans le sud des États-Unis. Si tu veux rencontrer des musiciens qui ont été un petit peu retrouvés, qui ont émergé de l'inconnu, c'est lui qui a fait ce travail-là. Et voilà. Et Anne Passeo qui vient d'arriver, que je n'ai pas vu depuis longtemps, donc je lui fais un bisou au passage, comme ça vous savez tout, chers auditeurs. Et effectivement, alors Tim, c'est un peu différent que Lomax quand même, parce qu'il y a une volonté, et c'est pas une honte, commerciale, c'est-à-dire de faire vendre des disques à ces artistes, de les retrouver, de les sortir. Voilà, les deux artistes qu'on a qui sont de Music Maker sont des bons exemples. C'est les gens, quand je les ai rencontrés, ils avaient un boulot, ils étaient à la retraite d'un boulot, tout ce qui est plus trivial, hein, à côté de la musique. La musique, pour eux, est une nécessité, c'est pas un métier, c'est quelque chose qui est vital et qui fait partie de leur histoire. Et ça n'a aucune conséquence de valeur sur ce qu'ils font. Ce qu'ils font est absolument magnifique. Voilà. Donc voilà un petit peu la différence de ce point de vue-là. Alors, Lomax, d'ailleurs, était un... Beaucoup de gens m'ont dit, oui, c'était un grand monsieur, très généreux, mais c'est un filou, parce que lui, comme tout était gratuit, il a aussi un peu volé, il a utilisé le travail des autres et l'a rendu gratuit, alors que les autres avaient peut-être plutôt envie de se faire payer pour le métier qu'ils faisaient. Tim, c'est différent, il y a vraiment une volonté claire de trouver des concerts. Ils ont des groupes, pendant longtemps ils avaient les Carolina Chocolate Drops, qui était vraiment le fer de lance qui faisait marcher la boîte. Et grâce à ça, d'aider des musiciens dans le besoin, des vieux musiciens, des gens qui sont les tributaires et les héritiers d'une longue tradition qu'il s'agit de préserver. La volonté de Tim et toute l'équipe de Music Maker, c'est de protéger. En plus, il n'y a pas d'exclusive, c'est pas des puristes, et ça j'aime bien, parce que bon, il y a une grosse différence comme ça entre la France et les États-Unis, c'est les puristes, quoi. En France, j'ai même des amis qui sont des puristes du jazz et du blues, qui n'ont jamais foutu les pieds aux États-Unis, mais ils savent ce que c'est, il ne faut pas leur dire qu'un tel fait du blues ou de tel blues, comme ça. Les Américains, justement, cette volonté un peu commerciale, ils savent ce que c'est que la tradition, mais ils n'ont pas de point de vue arrêté et puritain sur la chose. Voilà. Donc Tim fait un travail assez extraordinaire là-dessus, puis j'ai rencontré plusieurs fois, allé voir, il m'a fait rencontrer des gens, il m'a fait rencontrer des artistes, et ça a été grandiose.
Donc il résulte de cette rencontre un album au nom magique, Music is my home. Comment as-tu préparé ce disque en amont de son enregistrement?
Ah, alors, ça s'est fait assez naturellement, parce que moi j'ai fait tous ces voyages, toutes ces missions, et c'était assez évident pour moi, il fallait que j'en tire un disque. Faire de la recherche c'est bien, faire de la musique c'est mieux, enfin, quand c'est nourri, quand l'un se nourrit de l'autre et vice versa. Et l'idée c'était de le faire en France avec des musiciens français et des invités que j'allais pouvoir. Voilà, et donc j'ai invité Leila Makkala, Sarah Quintana, Big Ron Hunter et Alabama Slim. Ils sont venus en France, à part Sarah qui vient très souvent en France, mais là je l'ai enregistré aux États-Unis, c'était un peu le retour à l'envoyeur en quelque sorte. Et ça a été ça a été une sorte de conclusion. C'est Sarah qui a trouvé le titre, Music is My Home, parce qu'on avait aussi un projet de documentaire là-dessus. Et ça a été une belle aventure, une belle conclusion de tout ça. Alors, conclusion qui n'en est pas une, puisque là, on tire le fil un petit peu de tout ce travail. Music is My Home, acte 1, est une vraie réflexion sur nos racines, sur le blues et tout. Et paradoxalement, j'ai envie d'aller vers quelque chose après qui soit plus quelque chose de personnel et de plus, et aussi avec des musiciens français, de voir un peu ma maison où elle est, quoi, exactement. Music is My Home, c'est bien beau, mais il y a aussi un foyer, il y a des racines qui sont là, et comment on les assume maintenant à partir de cette connaissance que j'aime avoir sur la musique américaine. Voilà. Did you hear about the mighty flood that happened way down in New Orleans? I said, did you hear about the mighty flood that happened way down in New Orleans? Oh, let me tell y'all about it. Oh Lord, it was a terrible scene. The weather was getting cloudy, getting dark, getting the rain. The city had out a curfew. No one on the street after 6 p.m. Called little Freddie Kane. He's a very good friend of mine. I told him he had 15 minutes to make it there. And he was there in 10, the mighty flood. That happened way down in New Orleans. The mighty flood. Let me tell y'all about it. Oh Lord, it's a terrible scene. So me and my wife was held up at the Mauleum Hotel. I said me and my wife was at the Mauleum Hotel. Oh, no doubt in my mind, it was gonna be plenty hell, the mighty flood that happened way down in New Orleans. I said the mighty flood that happened in New Orleans. Oh Lord, it was a terrible. Thank you.
helicopter will fly. That was sick, people. Deaf, dumb, crippled, and blind, the mighty flood. That happened way down in New Orleans. A mighty flood. That happened way down. Yeah, let me tell y'all about it. Oh Lord, it's a terrible scene. The mighty flood that happened way down in New Orleans. The mighty flood will always be on my mind.
Avant de découvrir l'album et de l'écouter pour la première fois, la première question que je me suis posée, c'est de me dire, tiens, est-ce que Raphaël Imbert a dû s'adapter à ses bluesman ou est-ce que ses bluesman ont dû s'adapter à son style? En fait, rien de ça après cette fameuse première écoute, puisqu'au contraire, on sent que vous étiez chacun dans votre cocon, dans votre moule, et qu'en fait, ce sont des personnalités qui se sont complétées, mais il n'y a pas vraiment d'amalgame musical.
Non, je crois pas. C'est toujours un peu le risque aussi dans ce genre de projet. Enfin, faut jouer tel qu'on est, voilà. Et justement, par rapport aux puristes, je me rappelle toujours les spécialistes du blues français qui disent « Ah, mais non, mais Alabama Simantel, tous ces gens-là, tu sais, tu leur feras pas jouer avec ta musique, enfin, ça leur paraît trop étrange et tout. » Puis en fait, Alabama, quand la première fois que j'ai fait à New Orleans, quand j'ai joué dans son groupe, fait le bœuf et tout, chez lui, j'ai fait ma musique à moi, ma façon de jouer, et puis bon, j'estime quand même avoir une certaine... Je sais pas que je connais le blues, mais j'aime cette musique et j'aime la jouer à ma manière. Et en fait, ça marche très bien. Le but de Music Is My Home, c'est montrer ce sens de l'hospitalité qu'ils ont. Faut pas mentir avec eux, faut pas prétendre savoir jouer de musique et pas savoir le faire. Ils ont plein de mauvaises expériences qui te racontent, ils ont plein d'anecdotes avec des gens qui sont venus. Ah oui, moi j'aime B.B. King ou j'aime Johnny Hooker, je joue ces trucs-là, puis finalement c'est absolument pas le cas. Et ils sont à côté tout en ayant la persuadés qu'ils jouent cette musique pleinement. Par exemple, moi je viens du free jazz, je suis un grand amateur de Coltrane, Albert Heller, Ornette, c'est tous des grands musiciens de blues. Donc le but c'est de montrer justement, quand on fait ça, oui mais regardez, c'est la même musique. Et d'une certaine manière, ça répond aussi à plein d'aspects de notre musique populaire française qu'on peut aussi identifier par rapport à ça. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est rester soi-même, être soi-même, et juste comme le jazz est dans la vie, quoi. Vous êtes soi-même, vous discutez tel que vous êtes, et ça marche.
Sur ce disque, on passe de l'émotion, comme par exemple avec le morceau d'Alabama Slim, Mighty Flood, qui est très poignant, qui évoque le passage de l'ouragan Katrina, aux éclats de rire à la fin d'un morceau. Qu'est-ce qui, au final, t'a le plus touché chez ces gens?
Oh bah justement, c'est que c'est des gens avec qui on pleure, et avec qui on rit, avec qui on partage, avec qui on... Voilà, c'est des gens qui ont une vie tellement... On relativise beaucoup parce qu'ils ont une vie... Mon Dieu, ô combien difficile. Et voilà, ils viennent d'arriver, on vient de se voir, je suis tellement content, ça m'apporte tellement, c'est tellement, tellement fort pour toutes ces raisons. Oui, ça m'est arrivé de pleurer avec eux, vraiment. Quand Alabama vous raconte son expérience de Katrina, quand Big Ron raconte sa vie et tout ce qu'il a enduré, oui. Et puis d'un autre côté, c'est le bluesman le plus joyeux du monde, et dès qu'il fait trois notes, vous avez juste envie de danser, de rire, d'aimer, et tout ça. Donc, ouais, c'est un sacré, c'est une sacrée belle expérience. Ouais.
Tu le disais toi-même, le jazz est pour beaucoup considéré comme une musique de puriste. Le blues aussi, hein, surtout le delta blues. Hein. Il y a toujours des gens avec des œillères, particulièrement en France, qui voient ça d'une certaine façon. Comment rendre populaire une musique faite de ces deux éléments?
Oh, alors là... J'essaie de ne pas me poser la question en ces termes. Je pense que justement, si on montre que ça marche et qu'on est soi-même et qu'on fait quelques efforts pour être compris, il ne s'agit vraiment pas de faire des concessions, c'est juste quelques efforts dans la présentation, dans la façon de jouer cette musique. Là, tout le monde peut s'y retrouver. Après, remets pas en cause les goûts que peuvent avoir certains, mais on essaye dans le disque, comme en concert, on essaye d'avoir un fil conducteur et une certaine diversité à partir de ce fil conducteur qui, ah tiens, bah moi j'ai aimé ce truc, voilà, ah tiens, j'ai touché par cette chose-là. Et d'où la diversité aussi des invités et des musiciens est importante. Si on faisait un concert qu'avec Alabama Slim, on serait dans un mood. Alabama Slim, il a 20 chansons à son actif. Il joue tout en mi, quoi, avec la corde de mi grave à vide de la guitare. C'est une obsession. Et Ron, c'est juste la joie de vivre et tout ça. Bah, le contraste des deux. Et en plus, les deux s'entendent très bien et étant ravis tout le temps de jouer ensemble, bah, là, tout est possible. Et nous, on est tellement ravi de jouer avec eux en plus, donc voilà, c'est remarquable. Grande populaire justement cette musique, ça c'est pas la rende populiste ou la c'est moi j'ai très 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 à cheval sur les définitions de ces termes là. Je trouve d'ailleurs qu'on a fait des écueils et j'en discute souvent avec des amis anthropologues, scientifiques, universitaires qui mettent dans, et je leur reproche de mettre dans le même panier scientifique, dans les musiques populaires, ils vont mettre ce qui pour moi de l'ordre du, et c'est pas péjoratif, l'ordre de la musique commerciale, de la musique qui est faite pour faire de l'argent, et il y a de très bonnes choses là-dedans. Michael Jackson vient de la musique populaire, mais il fait de la musique commerciale, il en a fait de l'excellent. Prince qui vient de mourir, pareil, David Bowie que je vénère, c'est des gens qui sont dans l'industrie. Dans l'industrie, le marketing, la vente, le capitalisme de la culture. Après, on a les opinions politiques qu'on veut, mais moi, je trouve que c'est pas du tout péjoratif, mais c'est quand même pas du tout la même ambition. Et on dit ça, c'est la musique populaire, parce que c'est tout le monde qui l'écoute. Enfin, je veux dire, c'est un registre de marketing et d'industrie. Alors, à l'heure actuelle, on vous fait vendre tout et n'importe quoi. Ce qui a du succès, ce qui se vend énormément dans quel que soit le domaine, c'est pas forcément les choses les plus utiles à l'homme. Bah, la musique, c'est pareil. Et là-dedans, il y a énormément de déchets. Et quelques perles. Puis il y a la musique populaire. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a appelé ça la musique traditionnelle, il y a la musique folk, sauf qu'il y a plein de musiques populaires qui ne sont pas des musiques folkloriques, ou le blues n'est pas une musique folklorique, c'est même pas une musique traditionnelle. C'est une musique populaire, c'est la musique qui émane d'une communauté, qui émane d'un peuple, voilà, qui est l'expression d'un peuple. Et le rap, par exemple, un bon exemple d'une musique, elle cuit entre deux chaises aussi, de ce côté-là. Alors, pas entre musique savante et musique populaire, comme l'est le jazz, mais entre musique populaire et musique industrielle. Et le jazz, fut un temps, avait le cul entre les trois chaises, quand le jazz était la musique qui se vendait. C'est-à-dire les années 20, 30, ce qu'on appelait le swing era, toute cette période-là. C'était à la fois une musique de l'industrie du disque, une musique qui commençait à être savante, du Clinton, quand même, et une musique populaire, complètement populaire. Et moi, je suis très à cheval sur ces mots-là et sur leur définition, parce que justement, quand on dit comment vous voulez populariser cette musique, je dis, bah, c'est peut-être lui rendre ses racines populaires au sens plein et pas se poser la question du populisme. Voilà, beaucoup de mes collègues que je respecte par ailleurs qui font dans la facilité. Alors on rend accessible des choses qui n'avaient pas forcément besoin de l'être à ce point-là.
Donc l'album Music is My Home est sous-titré Act One. Ça laisse présager un deuxième acte. Est-il déjà à l'état d'ébauche?
Même ce soir, on va faire des extraits de ça. Non, mais bon, je vais pas extrapoler sur tout ce que je vis depuis un an à la sortie de ce disque. C'est une année très importante, mais une année de grands changements personnels et tout ça. Donc j'ai vécu des choses très fortes et j'ai envie de les raconter un peu. Là, je raconte l'histoire des autres. Là, j'ai envie de raconter aussi ce que je suis, en fait. Ma musique is my home, oui, d'accord, certes, mais justement, c'est aussi la réflexion sur son foyer, sur sa place, sur ses racines, ses propres racines, familiales, personnelles, son imaginaire, intellectuel. Et donc, j'aimerais assumer, il y a des compositions avec des paroles qu'on va écrire avec ma sœur, avec Mario Rampal, en anglais, en français aussi. Ce soir, on va jouer un blues avec des paroles en français. Je suis assez curieux de voir comment le public de Nancy Jazz Pulsation va réagir, hein, c'est une première. Pour vraiment recentrer aussi les choses. J'ai tellement fait de... Je suis toujours dans les projets au service des autres. Hein. J'ai fait Back Coltrane, Mozart Arlington, Back Coltrane qui ressort et qu'on va rejouer de plus en plus. Donc c'est un projet qui, 10 ans après, ont toujours une actualité. C'est merveilleux. Mais c'est quand même un travail de réflexion sur la musique des autres, même si c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Hein. Et j'ai fait des albums où j'ai que des compos et tout ça, mais qui étaient vraiment des albums de jazz, au sens en trio, en quartet. C'est très bien. Là, non, on va se servir du socle qu'on a trouvé sur Music is My Home, ce socle populaire, pour pouvoir mener à bien cette réflexion sur nous-mêmes et sur ce que je suis et sur ce que j'ai envie de proposer. Avec toujours en ligne de mire à quoi ça sert le blues, à quoi ça sert le gospel, à quoi ça sert la musique traditionnelle, notamment la nôtre, et comment elle résonne sur des choses très actuelles. Voilà.
Raphaël Imbert qui joue Coltrane, Supersonic qui reprend Sun Ra. Franchement, le blues n'a jamais, la France n'a jamais aussi bien tenu son rang de patrie du jazz finalement.
Oui, mais avec encore beaucoup de problèmes, je trouve. Je suis très perplexe sur la façon dont le jazz est enseigné dans les conservatoires. Je suis très perplexe sur, c'est-à-dire, il y a les festivals réussissent, mais sur des événements très ponctuels à démocratiser cette musique autour de figures qui sont. Sont-elles jazz ou pas? Voilà, moi je suis toujours un peu contrarié quand j'entends Ibrahim Malouf, que je respecte énormément et qui est. Que vous savez, il y a eu Dave Brubeck, il y a eu Michel Jonas, et c'est pas du tout péjoratif, vous savez, ces gens qui ont popularisé, enfin qui ont démocratisé par leur succès des musiques qui étaient en train de s'enfermer. Bah, Ibrahim fait ça, et c'est merveilleux. Mais dans les interviews, il dit oui, mais finalement je fais pas du jazz. Je dis arrête tes conneries. Tu joues de la trompette, tu fais des solos avec une rythmique et tout, c'est du jazz. Assumez-le, pourquoi à chaque fois? Pourquoi chaque fois que ça marche, on fait plus du jazz? C'est ridicule. Et là, on a une vraie maladie en France avec ça. C'est un vrai problème psychologique. On n'assume pas les mots. Tu fais du jazz et tu fais du jazz populaire. Tant mieux. Après, on aime, on n'aime pas ce que fait Ibrahim, mais il remplit les zéniths. Et donc, sur les 50 000 personnes qu'il a sur un concert, sur une tournée, tu sais que tu en as 5 000 au moins qui vont venir te voir, qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Et comme moi, bon, je fais pas les choses de la même manière que lui, et j'ai pas le succès qu'il a, et j'en ai d'autres, et j'en suis ravi. On travaille tous pour que ça marche et qu'on soit écouté. Mais on est tous complémentaires. Alors les gens, et puis il y a aussi tout ce milieu de la musique improvisée dont je viens aussi, hein. Moi, je viens du free et de la musique contemporaine aussi. Ah non, mais on fait pas du jazz, sous-entendu, on fait pas la musique d'américain, on fait pas la musique de noir. J'ai déjà entendu, hein, on fait pas de la musique de noir. J'ai dit, mais attendez. Et qu'il y a des gens qui font ça et qui jouent en trio guitare, basse, batterie, t'as juste envie de rigoler. J'ai dit, bah oui, mais tu es dans la même formation qu'Ouest Montgomery, mais si tu fais pas exactement la même musique, tu l'as fait parce qu'il l'a fait. Vous faites du jazz, les gars. Arrêtez de chercher midi à 14h. C'est pas grave. C'est pas une maladie. Vous allez pas mourir plus jeune parce que vous dites que vous faites du jazz. Et c'est quand même frappant, quoi, d'entendre ça. Et les mecs, ils disent ça. Puis en plus, c'est très souvent. Et ça, c'est une vraie. C'est ça qui, pour moi, est très préjudiciable. C'est que les gens, je pense, ont une image du jazz un peu ambivalente parce que les jazzmen eux-mêmes n'assument pas leur musique. Quand vous avez des musiciens qui ne savent pas vous définir, ils disent non mais je fais pas du jazz, je fais une sorte de techno impro punk et tout. Tu fais du jazz, ouais. Voilà. Il y a des gens qui font du jazz en faisant du Dixieland et qui le font très bien en France. Il y a des authentiques jazzmen au sens stylistique. Moi, je pense toujours à Jean-François Bonnel, qui est le prof du conservatoire d'Aix, qui est une merveille et qui a été quand même pendant très longtemps montré du doigt parce que passéiste, alors que c'est le meilleur free jazzman que je connaisse. C'est pas grave, des gens qui connaissent bien, comme les musiciens baroques, ceux qui connaissent très bien leur style et ils sont importants. Puis d'autres qui ont juste envie d'exprimer quelque chose de personnel, ils le font peut-être pas avec. Ils connaissent peut-être pas tel enregistrement obscur de Jimmy Cobb en 57 et peu importe. Donc le jazz c'est cette famille très large, famille recomposée depuis sa naissance, d'influences totalement délirantes, diverses et antagonistes qui marchent. Donc arrêtons de dénigrer quelque chose qui marche. Et là, le jazz sera populaire. Et là, le jazz sera assumé par tout le monde. Et le swing aussi, qui est un mot pour moi très important. On a besoin de swing, pas de swing. C'est pas du revival, l'hip-hop dont je parle. C'est le fait de. Le swing, c'est le balancement. C'est le swing qui a permis d'inventer cette musique qui réunit des choses totalement antagonistes, de musique, de philosophie, d'état d'esprit. Je crois qu'on vit une époque où on a besoin de ça. De sortir du manichéisme permanent, des débats sans fin où vous avez tort, vous êtes le mal, je suis le bien et tout ça. Le jazz est la musique du bien et du mal. C'est la musique du sacré et du profane. C'est la musique du bordel et de l'église. On a besoin de ça. On a besoin de cette ambivalence. On a besoin de ce swing. Voilà. Raphaël Imbert pour Route 68 sur RDL.
Musique et notre maison à toutes et tous. Je ne peux que vous recommander ce magnifique album Music is my home, Act One, que nous propose le saxophoniste Raphaël Imbert et sur lequel il est accompagné par de grands noms du blues tels que Big Rod Hunter, Alabama Slim, Leila McCalla, Sarah Quintana, etc. Il y a beaucoup d'excellents musiciens qui se retrouvent sur ce disque, qu'ils soient français ou américains. Durant cette séquence, nous avons extrait les morceaux MLK Blues, The Mighty Flood, qui était interprété par Alabama Slim, qui, je le rappelle, avait été notre invité lors de sa toute première venue en France. C'était en janvier 2007, j'en garde un grand souvenir. Il était là, en face de moi, dans ce studio, et il nous avait interprété des titres en live absolument magiques. Nous avons également écouté durant cette séquence Sweet River Blues, et à l'instant, Music is my home, qui a donné son nom à l'album, qui aura donc une suite, puisqu'après l'acte 1, nous attendons l'acte 2. Raphaël Imbert, l'interview que vous avez écoutée, vous pourrez la retrouver très bien transcrite sur notre site internet sur laroute66.free.fr. Il y aura également une transcription d'interview du chanteur bluesman américain Big Rod Hunter que j'ai interviewé le même jour. Voilà, nous allons nous quitter puisque l'heure est venue, mais en beauté avec une avant-première. Ce sera l'un des plus beaux disques là aussi de cette fin d'année 2016. Il s'appelle Dealing With My Blues, il paraîtra chez les disquaires le 4 novembre et il est signé Nico Duportal et ses Rhythm and Dudes. Je vous propose, pour vous dire au revoir, d'en extraire en avant-première le morceau Mess and Chaos. C'était David au micro, à la technique et à la programmation de Route 66 sur le 103.5 FM et le www.rdl68.fr et le site de l'émission, bien sûr, je vous en donne le nom, c'est sur la route 66.free.fr. À bientôt, salut.
Bonjour, c'est Nico Duportal, vous êtes avec David pour l'émission Route 66 sur Radio RDL 103.5 FM.
Nobody knows, nobody knows why everybody goes for fussing and fighting, cursing and biting. Everybody goes. Trouble, trouble, mess and chaos, mess, mess and chaos. Some build up bridges, some build up bridges, trying to break walls down. Trouble, trouble, mess and chaos, mess, mess and chaos. We'll be home, behold, this is me. We'll be home, behold, this is true. Some build up bridges, some build up bridges, trying to break walls down. Some build up walls, trying to break down bridges. All around for trouble, trouble, mess and chaos, mess, mess and chaos.